Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Ceci est donc la suite de notre message sur la prospérité qui est le signe de l'alliance. Nous avons une alliance avec Dieu. Et cette prospérité est un signe. Un signe, c'est quelque chose qu'on peut voir. La signalisation, ça permet aux gens de savoir ce qui se passe. Et donc, lorsque les gens nous voient prospérer, c'est un signe pour eux que Dieu agit dans notre vie. Lorsqu'avant nous étions 10 fois malades par an et que nous ne sommes plus malades que 2 fois, il y a une prospérité et il y a une amélioration. Lorsque nous étions endettés, même si nous ne sommes pas encore multimillionnaires, mais que déjà nous arrivons à joindre les deux bouts, ça veut dire qu'il y a une prospérité. Et donc il y a beaucoup de choses qu'on peut voir comme ça. Mais tout d'abord, j'aimerais rappeler que ce qui est important, c'est que nous reconnaissions que tout ce que nous avons vient de Dieu. Et même les choses que nous avons, les choses matérielles, quelqu'un pourrait dire, mais c'est moi qui l'ai gagné avec à la force de mes bras, à la sueur de mon front. Nous avons vu que la sueur du front est un des aspects de la malédiction. Ça veut dire qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour des fois avoir peu de résultats. Mais ce n'est pas ce que Dieu voudrait pour nous. Il y a quelqu'un qui n'avait pas compris non plus quelque chose de très important. Nous lisons cette histoire dans Actes au chapitre 8 et au verset 20. C'était Simon qu'on surnommait le magicien et qui voulait acheter à prix d'argent un don spirituel, la capacité de transmettre le Saint-Esprit. Et Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Il est donc important que notre cœur soit droit devant Dieu. Et que, en l'occurrence, là, Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi. Cet argent est maudit, on peut dire, parce qu'il est attaché à la personne. La personne est attachée à l'argent. Et de cette façon, ce n'est pas quelque chose que Dieu peut utiliser. Et en l'occurrence, les apôtres n'en voulaient même pas dans le ministère. Ils n'ont pas dit, bon, écoute, on va t'expliquer. Ce n'est pas comme ça qu'on reçoit dans le Saint-Esprit ou qu'on le communique, mais nous acceptons volontiers tes offrandes. On dit non, de cet argent, de cette façon, nous n'en voulons pas. Et donc, on peut distinguer plusieurs sortes d'argent. Premièrement, il y a l'argent gagné par le travail. C'est l'argent... C'est la façon la plus simple. Quelqu'un dit une fois, c'était un homme de Dieu qui a prêché un message, je ne sais pas combien de fois, des milliers de fois. Il a dit, je ne peux pas imaginer que quelqu'un ait prêché un message des milliers de fois pendant sa vie, mais il semblerait. Et son message, c'était avant tout, si vous voulez prospérer, eh bien, il y a 2 règles. Travailler dur et mener une vie sainte. Donc, mener une vie sainte, ça veut dire mener une vie qui est à droite devant Dieu et travailler dur. Mais on se rend compte que cette façon de dire travailler dur peut, au bout d'un moment, devenir quelque chose qui n'est plus bon, mais qui est à nouveau s'appuyer sur ses propres forces et, en fait, se glorifier de dire « Regardez tout ce que moi j'ai pu réaliser ». Donc, on se rend compte que nous sommes appelés à travailler. Nous pouvons voir ça dans le livre de la Genèse. Adam avait reçu une tâche à accomplir, garder le jardin et en prendre soin. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé après, quand la terre a été maudite et qu'il fallait qu'il gagne à la sueur de son front difficilement son travail. Donc il y a de l'argent gagné au travail, c'est de l'argent qui est de l'argent qu'on peut en estimer la valeur. Parce que ça nous a coûté du temps, ça nous a coûté des efforts, et c'est de l'argent qui est sain, dans le sens que c'est quelque chose qui a un effet bénéfique dans notre vie. Bénéfique parce que on sait comment il a été gagné. Il y a l'argent aussi qu'on peut avoir hérité ou reçu de la famille. Ça a été pendant longtemps, et c'est encore, une façon de prospérer. Vivre ensemble, en famille, rassembler toutes les forces de la famille, et en particulier dans le monde agricole. Avoir des grandes familles, c'était avoir de la main d'œuvre, et tout le monde prospérait en vivant ensemble. Et on peut dire que c'est aussi de cette façon que Dieu a appelé Abraham à quitter sa famille pour bien montrer à tout le monde qu'il était Dieu. Parce qu'Abraham devait à ce moment-là dépendre non pas du système, du clan, ou de la tribu, ou de ce qu'il a toujours connu, mais dépendre de Dieu seul. Donc il y a des gens qui, de cette façon, par leur travail, bien rémunérés, ou par des héritages, ou des choses qu'ils reçoivent, prospèrent. Et donc là, ce n'est pas forcément qu'on soit chrétien ou pas chrétien, mais il y a des gens qui sont dans cette situation, ils prospèrent. Mais la Bible a quelque chose à nous dire à ce sujet. Et je pense à ce passage de Esther au chapitre 4 et au verset 13. Il nous dit « Mardoché fit répondre à Esther quand il y avait donc cette menace sur le peuple juif, menace d'être donc détruit par l'ennemi des Juifs qui était Aman. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. » Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Et donc mon message, la part du Seigneur, je crois très clair, c'est si des personnes ont pu prospérer par leur travail ou par l'argent qu'ils ont, Dieu a toujours un but pour nous. C'est de nous bénir nous-mêmes, mais aussi d'être une source de bénédiction. Quand il a placé Esther dans la maison du roi, ce n'était pas seulement pour que Esther devienne reine, mais pour qu'elle soit un instrument de délivrance pour le peuple tout entier. De la même façon, si des gens dans le peuple de Dieu prospèrent, nous nous réjouissons pour eux de tout le bien que Dieu leur fait. Mais ils ne doivent pas oublier que Dieu leur donne cela aussi avec une responsabilité. Si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, que quelqu'un a peut-être des moyens à sa disposition qu'il peut donner à l'œuvre de Dieu. Matthieu 25, nous nous rappelons de cette personne qui a caché son talent dans la terre. Quand le maître est venu, il a dit « J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. » Et nous savons que le maître n'est pas satisfait de ça. Il ne voulait pas seulement récupérer un talent qui avait été enfoui, il aurait voulu que ce talent ait porté du fruit et il aurait voulu en récupérer plus. C'est ainsi que nous savons si une chose est semée, elle peut multiplier, elle peut croître. Mais si c'est seulement caché, alors ça ne produit rien, c'est stérile. C'est ainsi qu'il y a cette exhortation pour Timothée, dans 1 Timothée 6, 17, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Donc, si des gens dans le peuple de Dieu prospèrent, Dieu dit ici clairement, c'est pas pour qu'ils doivent tout vendre et donner aux autres qui n'ont rien, ou distribuer pour que chacun ait exactement la même chose. Et il dit non, c'est pour qu'ils puissent en jouir, mais en même temps, ils ne doivent pas oublier que c'est aussi une occasion pour eux de faire du bien. Donc c'est quelque chose qui est important à considérer. Et ceux qui prospèrent déjà ne devraient jamais s'arrêter non plus de rechercher des moyens de prospérer encore plus. Justement, dans cette optique, ne devraient pas être au bout d'un moment en disant « je suis satisfait, j'ai tout ce qu'il me faut ». Sinon, nous sommes de nouveau dans une situation du riche insensé qui a dit « mon âme, bois, réjouis-toi, tu as beaucoup de biens en abondance pour plusieurs années et maintenant tu peux te reposer ». Non, nous devons au contraire constamment exercer notre muscle de la foi et aller toujours plus loin, toujours plus loin. Ainsi que dans l'œuvre de Dieu aussi, nous pouvons aller toujours plus loin de ce que nous voulons faire pour annoncer la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Nous ne voulons pas y passer encore plusieurs siècles et y aller avec des bateaux à voile. D'accord ? Nous voulons y aller maintenant avec des satellites pour qu'en un instant, à l'autre bout du monde, les gens puissent voir, entendre l'évangile prêché de toutes sortes de façons. Et donc on se rend compte que ce n'est pas avec les mêmes moyens qu'on peut maintenant atteindre des résultats meilleurs. Il y a d'autres sources de richesse et d'argent que l'enfant de Dieu ne devrait pas rechercher. L'argent de la chance, loterie, course, etc. Alors quelqu'un pourrait une fois dire mais si on gagne au loto, on peut aussi le donner pour l'œuvre de Dieu. Mais il faut pas se rappeler que il faudrait se rappeler que qu'est-ce que c'est la loterie? Quelqu'un a dit une fois, donné une bonne définition, il a dit la loterie, c'est une façon de taxer les pauvres. Parce qu'en fait, on leur vend du rêve. Et les riches ne jouent pas à la loterie. Ce ne sont que les pauvres gens. Parce qu'ils espèrent et ils rêvent, et de temps en temps, le rêve d'une personne se réalise. Mais pendant ce temps, tous les autres deviennent plus pauvres encore. Donc c'est vraiment un système qui n'est pas du tout en accord avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle désire? Elle désire qu'il y ait abondance et création de richesses. Elle ne veut pas qu'il y ait simplement partage, ou que les pauvres soient encore plus pauvres, et que l'un d'entre eux s'enrichisse. Donc ce ne sont pas des bonnes pistes. L'argent volé, on ne devrait pas le rechercher, mais on peut voler de plusieurs façons. Hein. Et en allant très loin, on peut aller dans certains détails de choses qu'on prend à l'employeur, des choses qui ne sont pas prévues. Si vous avez des fournitures de bureau, en tant qu'employé, vous n'êtes pas censé emmener des fournitures de bureau à la maison. Ces fournitures de bureau sont pour l'endroit où vous travaillez, mais pas pour emmener chez vous. Et de la même façon, qu'il y a peut-être un arrangement avec votre employeur pour certaines choses. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent utiliser la voiture de fonction et qui sont autorisés à le faire, ou d'autres choses comme ça. Là, c'est OK. Mais sinon, l'enfant de Dieu ne peut pas raisonner en se disant « Mais ce que j'économise en n'achetant pas mes stylos et en les prenant au bureau, je peux le donner à l'œuvre de Dieu. » On peut être tellement tordu dans sa façon de raisonner et qu'on ne se rend même plus compte de ce qu'on est en train de faire pour des petites choses. Mais cet argent est volé. Nous ne devons pas chercher à nous enrichir de cette façon. D'accord? Parce que si je vous avais dit il ne faut pas faire de hold-up à la banque, vous auriez dit ça c'est évident. Mais peut-être l'histoire du stylo, c'est différent. Comprenez? Et peut-être vous trouverez vous-même encore des illustrations. Et l'illustration, on peut aussi se dire, celui qui part avant que l'heure de travail soit terminée, c'est une façon aussi de voler. Nous ne sommes pas censés partir avant l'heure. Nous sommes censés travailler pour le temps qu'on nous demande de travailler. Et ainsi de suite. Nous ne devons pas chercher non plus l'argent perdu. Parce que l'argent perdu, ce n'est pas la même chose. On peut dire, mais si je trouve le trésor des pirates qui était sur l'île au trésor depuis des siècles. D'accord, mais je crois que ce n'est pas des bonnes directions pour nous enrichir. Ce ne sont pas à ces choses-là que Dieu veut que nous nous attachions. Maintenant, si vous creusez dans votre jardin et que vous tombez sur un coffre, peut-être le Seigneur vous aura fait un cadeau, mais je dis, nous ne devons pas courir après ça. Nous ne devons pas non plus rechercher l'argent sale. Il y a toutes sortes de possibilités maintenant dans le monde. Il y a des gens malhonnêtes qui cherchent ce qu'on appelle à blanchir leur argent. Blanchir, ça veut dire le faire passer par des circuits. Et moi-même, on m'a déjà fait pas mal de propositions pour blanchir de l'argent. Et donc, c'est des choses où il faut vraiment se méfier. Alors, il y a une dernière catégorie d'argent, et c'est celui que nous préférons maintenant, c'est l'argent miracle. L'argent miracle, il existe. Et il est différent de l'argent que vous gagnez par votre travail ou que vous recevez par quelqu'un de votre famille, etc. Bien sûr, pour vous, peut-être une augmentation, vous pourrez dire c'est un miracle de Dieu que j'ai été augmenté. Ou vous pouvez dire c'est un miracle de Dieu, Dieu a répondu parce que quelqu'un de votre famille vous a donné quelque chose. Et c'est vrai. Mais moi, je vais vous parler maintenant de l'argent miracle qui est vraiment extraordinaire. Et le meilleur exemple que j'ai trouvé dans la Bible, c'est Matthieu 17, 27. Quand Jésus dit à Pierre, pour payer leur impôt, Pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon, tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. Voilà un exemple d'argent miracle. Parce que il n'y avait peut-être pas beaucoup de poissons qui avaient de l'argent dans leur bouche, mais surtout ce poisson, il n'était pas là par hasard. C'est Dieu qui l'a fait venir vers là pour qu'il puisse prendre l'argent. D'accord ? Alors la meilleure catégorie d'argent qu'on puisse voir pour un enfant de Dieu, c'est l'argent miracle. De réaliser que Dieu peut, et nous le disons des fois, Éphésiens 3:20, Dieu peut par la puissance qui agit en nous faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et en même temps qu'on dit infiniment au-delà, est-ce qu'on pense à tous les aspects ? Alors une fois on pense à ceci, une fois on pense à cela, parce que dans notre vie il y a des impossibilités, il y a des situations qui sont bloquées, il y a des choses qui nous empêchent de faire certaines choses qu'on voudrait, et on a besoin de se le rappeler que nous ne devons pas limiter Dieu. Alors, si vous attendez une augmentation, si vous attendez un cadeau de Noël de quelqu'un de votre famille, si vous attendez je ne sais quoi, c'est bien tout ça. Mais n'oubliez pas, ne limitez pas Dieu. S'il a pu faire venir un poisson avec de l'argent dans sa bouche pour que Pierre vienne le pêcher, il peut faire n'importe quoi pour venir vers vous. Et donc, cet argent miracle se base avant tout sur le miracle de la venue de Jésus. Dans 2 Corinthiens 8:9, il nous est dit « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Donc cet argent ne vient pas d'une manière naturelle, mais il vient d'une manière extraordinaire. Extraordinaire parce que basé sur cette œuvre de Jésus. Comprenez ? L'œuvre de Jésus est une œuvre surnaturelle. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre. C'est surnaturellement que ça s'est passé. Le transfert de Jésus, la parole vivante de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, venant sur terre, est un miracle. Et donc, ce que Dieu veut faire pour nous, c'est-à-dire de notre pauvreté dans laquelle nous sommes, de nous faire rentrer dans les richesses de Dieu, est aussi du domaine du miracle. C'est quelque chose qui se produit avant tout dans l'esprit. C'est pourquoi je dis que les gens ne doivent pas se contenter seulement de ce qu'ils ont dans le naturel, en disant j'ai un job qui marche bien, il y a de l'argent qui rentre, mon affaire marche bien, ou mon commerce, ou on a de l'avance, ou on a de l'argent à la banque. Ces choses peuvent disparaître rapidement. Nous le savons. Ça peut venir rapidement, ça peut disparaître rapidement. Donc il est important de développer une habitude de dépendre de Dieu, de le voir agir d'une façon miraculeuse. L'homme, naturellement, cherche à prospérer. On le voit, les gens courent au travail, ils veulent amasser des richesses, ils veulent gagner de l'argent. Ils veulent même, on l'a vu, gagner de l'argent de toutes sortes de façons. Ils veulent prospérer. Dans 2 Thessaloniciens 3:6, et on voit que c'est juste, Paul avait besoin de rappeler à certains Thessaloniciens de à nouveau travailler pour prospérer et ne pas dépendre des autres. Rien de plus triste que des gens qui sont assistés et qui dépendent des autres et qui ne développent pas eux-mêmes des capacités, parce que Dieu leur a donné des capacités de faire quelque chose. Et donc Paul disait, nous vous recommandons frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Et en particulier, alors on se dit le désordre, qu'est-ce que c'est que ce désordre ? Ben, il y a un aspect du désordre qu'il explique. Il dit, vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Et il explique, nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais c'est dans le travail, dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Et donc, Paul dit dans un autre épître, mais dit que en tant que prédicateur, il aurait le droit de ne prêcher l'évangile et de ne faire aucun travail à part ça, et de voir que ses besoins soient pourvus. Mais comme il a vu qu'il y avait pas mal de désordre dans certains endroits, il a volontairement, pas par nécessité, il ne nous est pas dit, nous avions absolument besoin de travailler, sinon on n'aurait pas pu joindre les deux bouts et notre Dieu n'aurait pas pu pourvoir. Il dit, nous avons ici, nous avons voulu vous montrer un modèle. Nous avons voulu vous montrer qu'il faut aussi travailler de ses propres mains et ne pas seulement dépendre des autres et être à la charge des autres. Il a pensé que à ce moment-là, c'était une bonne chose et que c'était un exemple à suivre, un modèle à imiter, il dit. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Proverbe 6 dit, va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. C'est-à-dire que l'animal, la fourmi, a reçu de Dieu l'instinct de travailler, d'amasser, et ainsi elle se trouve, je ne vais pas vous faire la fable de la fourmi et de la cigale, mais donc elle se trouve pourvue quand elle en a besoin, et de la même façon, donc nous avons à apprendre de ces choses. Donc, une des façons de prospérer qui est très simple, c'est le travail. C'est le travail, mais en même temps, de s'attendre à Dieu aussi pour les miracles. Donc l'homme cherche naturellement à prospérer, Dieu lui a donné une capacité naturelle, c'est de faire son travail, mais je dis, l'homme doit rechercher aussi spirituellement à prospérer. Et quand je dis spirituellement à prospérer, ça ne veut pas dire, moi je suis pauvre naturellement, matériellement, mais spirituellement je suis riche. Ce n'est pas ça que je dis, je parle d'autre chose. Je parle de faire un travail spirituel pour prospérer. Je ne parle pas de prospérer dans mon esprit et pas dans d'autres domaines. Je dis de travailler dans l'esprit pour prospérer à tous égards. C'est ce que la Bible dit d'une autre façon, dans « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, si notre âme prospère, alors la prospérité viendra aussi. » Et donc, il faut pour cela faire un travail spirituel. Il y a des choses qui ne viennent pas dans le naturel. Jésus a dit « La chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. » Il y a des situations où vous ne pouvez pas vous en sortir avec des méthodes naturelles. D'accord ? On a vu que la pauvreté est une malédiction. Il y a des endroits où la pauvreté agit dans le monde et on sait que c'est à cause d'une malédiction spirituelle. Des endroits où il y a de la sorcellerie, des endroits où il y a toutes sortes de religions démoniaques apportent la pauvreté dans certains endroits. Donc, dans ces endroits-là, vous ne pouvez pas simplement dire aux gens « Allez, mettez-vous au travail et tout ira mieux pour vous. » Parce qu'il y a un aspect spirituel. Cet aspect spirituel doit aussi être brisé. Donc il faut venir contre ces choses avec des armes spirituelles. Et l'arme spirituelle que Dieu nous a donnée, c'est la parole de Dieu, qui devient alors l'épée de l'esprit. D'accord ? Comment recevoir des choses de Dieu si ce n'est par l'esprit ? Dieu est esprit, s'il veut nous donner quelque chose, ce sera au travers de l'esprit, dans notre esprit. Et vous recevrez d'abord des pensées et des paroles de prospérité avant d'expérimenter la prospérité. J'en suis convaincu. Dieu veut d'abord que ces paroles viennent en vous, soient dans votre cœur, que vous puissiez les libérer par vos prières, par vos proclamations des promesses, et ainsi amener vous-même, les gens qui sont avec vous, votre famille, votre église et toute l'œuvre de Dieu, aller dans un niveau plus élevé où on pourra davantage influencer le monde. Donc l'homme doit rechercher aussi spirituellement à prospérer. Si vous travaillez bien toute la semaine, dans votre travail, que vous avez un bon emploi, que vous encouragez l'Église par vos dîmes et offrandes, c'est bien, mais n'oubliez pas de chercher à prospérer spirituellement et d'avoir aussi cette dimension d'argent miracle. Le miracle, c'est chaque fois que Dieu intervient dans le quotidien, dans le naturel. Or, nous avons un Dieu qui ne veut pas juste faire une apparition de temps en temps, tous les 6 mois ou tous les 15 ans. Il veut vivre avec nous au quotidien. Au quotidien. Et il aimerait se glorifier. Et n'ayez pas peur, ses ressources ne seront pas épuisées. Il y en aura pour tout le monde. Philippiens 4, 19 dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ. » Là encore, si nous pensons comme nous avons l'habitude de penser, disons « Mais si Dieu me donne à moi, il n'y en aura plus assez pour lui. » Mais ça, c'est nos façons de penser. Dieu peut subvenir aux besoins. Et pourquoi donc prospérer avant tout, et là on vient à ce qui m'a donné le titre pour ce que je suis en train de partager avec vous, la prospérité, le signe de son alliance, c'est que Dieu désire établir son alliance sur la terre. Deutéronome 8, 18, il dit « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, il est question des richesses, pour les acquérir afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Donc, prospérer, ce n'est pas seulement « moi j'ai envie de prospérer, un autre chrétien n'a pas envie, l'un fait ça, l'autre fait autre chose, chacun fait ce qu'il veut. » Prospérer est l'idée de Dieu, parce qu'il poursuit un but. Il veut faire quoi ici ? Il nous est dit « confirmer son alliance ». Vous savez que la parole de Dieu ne peut pas être changée ? Jésus a dit « Personne n'y changera un iota. Mes paroles ne passeront pas. Cette parole ne doit pas passer non plus. » Dieu désire toujours encore confirmer son alliance. Il veut confirmer son alliance. Il veut que les gens voient, en voyant votre vie, ils voient « ces gens-là ont un Dieu. Il pourvoit à leurs besoins. Il les assiste. Il les aide. » Mais bien sûr, si vous ne le laissez pas agir, ils ne verront pas de différence. Ils diront « Ah mais lui, il est comme nous, dans les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. » Et c'est vrai que nous avons les mêmes problèmes et les mêmes difficultés, mais tout le monde n'a pas les mêmes solutions. Nous avons les solutions. Parce qu'il y a les promesses de Dieu. Il désire établir son alliance sur la terre. Nous devons donc raisonnablement chercher à nous enrichir. Quand je dis raisonnablement, ça veut dire que nous ne devons pas courir après les richesses comme des gens qui en sont possédés par l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, dit la Bible, est la racine de tous les maux. Mais nous devons raisonnablement chercher à nous enrichir. Et je prends pour cela un passage de la Bible qu'on n'utilise pas souvent pour ça, mais que je trouve qui convient tout à fait. Romains 12, 1 nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Pourquoi ne pas offrir vos corps à Dieu dans le sens du travail et de la prospérité ? De dire « Seigneur, utilise-moi tel que je suis, soit à travers mon travail, bénis ce que je fais, bénis l'œuvre de mes mains, comme il est écrit quelque part dans la parole, afin que je puisse, au travers de cela et de toute cette prospérité que tu vas m'accorder, t'offrir un culte, c'est-à-dire le faire servir à ta gloire. Et pour ça, je ne veux pas le faire comme les autres font. Alors ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc laissez-vous transformer dans votre façon de voir. Et alors, quelle est une des façons de voir ? Une des façons de voir qui semble vraiment fou aux yeux du monde, c'est la loi de Dieu telle qu'elle est dans sa parole, et une des lois spirituelles qui nous ouvre la porte pour la bénédiction, c'est la loi de la dîme. Il existe une loi spirituelle dans la parole de Dieu qui est la loi de la dîme. Peut-être certains n'aiment pas entendre parler de la dîme, mais en général, les gens qui payent la dîme, ça ne les dérange pas qu'on parle de la dîme. C'est ceux qui ne veulent pas la payer. Parce qu'ils ne comprennent pas certaines choses. Ils ne comprennent pas, par exemple, qu'une loi, c'est une loi. Je peux être pour la loi de la gravité ou contre la loi de la gravité, mais j'y suis soumis de toute façon. Je ne choisis pas. Si je saute du troisième étage, je suis soumis à la loi de la gravité. Que je sois chrétien ou non, que je sois pour ou contre, c'est comme ça. Ainsi, il y a des lois spirituelles dans la parole de Dieu, que cela plaise ou non, elle y est. Et donc, la seule chose qui peut poser problème à quelqu'un, c'est de n'avoir pas compris quel est le sens de la loi de la dîme. Pourquoi donc utiliser ce terme de la loi? C'est parce que l'univers est régi par des lois. Il y a des lois physiques, il y a des lois de la chimie, et il y a aussi des lois spirituelles. Le monde des esprits est régi par des lois. Et des lois, ça veut dire que une chose, j'ai une définition là, c'est une règle obligatoire promulguée par l'autorité souveraine. Et cette loi, elle ordonne, elle permet, elle défend ou elle punit. Et c'est intéressant parce que souvent nous n'avons que l'aspect négatif de la loi et nous pensons loi, ça veut dire si j'enfreins la loi, je suis puni. Mais la loi, ici, d'après cette définition que nous avons vue, la loi permet aussi. Ainsi, la loi de la dîme nous ouvre une porte et nous permet de rentrer dans une dimension spirituelle que Dieu veut pour nous et nos finances. On va prendre le passage de Malachie 3, versets 7 à 12. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi, je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Donc le principe, c'est quand toutes les nations voient que ce pays est un pays de délices, c'est un témoignage pour Dieu. Mais d'où vient ce témoignage? Le témoignage vient d'avoir observé la loi de Dieu. Et la loi de Dieu, c'est que Dieu ouvre les écluses des cieux. Alors les écluses des cieux, c'est bien quelque chose de spirituel, vous êtes d'accord avec moi? Les écluses des cieux, c'est quelque chose de spirituel et il y a une action de l'Esprit de Dieu contre l'ennemi qui dévore et qui détruit. Et cela est permis à Dieu lorsque nous observons la loi de la dîme. Autrement, cela ne lui est pas permis. Vous comprenez? Dieu n'intervient pas sur terre n'importe comment, comme il lui semble bon. Il intervient d'après un certain nombre de lois. Une des lois que Dieu observe, c'est la loi que des personnes ont leur propre volonté. Il ne va pas faire des choses dans la vie des gens contre leur volonté. Il va respecter leur volonté. Et il est très patient. Il attend longtemps que des personnes, des fois, changent de mentalité, changent d'attitude. Mais si nous ne lui permettons pas certaines choses parce que nous refusons d'obéir à sa parole, il est empêché. Est-ce que vous pouvez imaginer que Dieu soit empêché? À l'instant, je viens de vous dire que nous ne devons pas limiter Dieu. Pourtant, nous avons une belle illustration dans la Bible où il nous est dit que Jésus lui-même a été empêché de faire certains miracles dans sa ville natale parce qu'il ne croyait pas en lui. Il ne pouvait faire là pas de grands miracles. De la même façon, Dieu est empêché de faire certaines choses dans la vie des gens s'ils n'obéissent pas à sa loi. Et cette loi, c'est la loi de la dîme. Elle a été instaurée par la parole de Dieu. Quelle est la définition? La définition, c'est simple. D'après le nom, c'est 10% des revenus. Enfin, en français, ça vient du latin décima, ça veut dire tout simplement dixième partie. Donc on ne peut pas avoir une dîme de 9%, ni de 11%, c'est 10%. La dîme, c'est 10%. Si c'est plus, alors vous ne donnez plus la dîme, vous donnez des offrandes supplémentaires. Si c'est moins, ça veut dire que vous n'avez pas donné la dîme. Donc la dîme, c'est 10%. Et donc, l'origine de la dîme, alors certains peuvent dire, oui, mais nous, on n'est pas des juifs. On n'est pas obligé d'observer la loi de Moïse. Bien, la dîme a été, pour ainsi dire, confirmée dans la loi de Moïse, mais elle n'est pas de Moïse. La dîme est venue d'Abraham. Or, nous sommes les enfants d'Abraham, le croyant. Nous sommes à l'image d'Abraham dans une relation de confiance en Dieu. Et Abraham, il n'a pas fait ça parce que quelque part dans un livre, il était dit, Abraham, tu dois payer 10%. Abraham a fait ça parce qu'il a expérimenté une rencontre surnaturelle avec un sacrificateur du Très-Haut qui s'appelait Melchisédek. C'est dans Genèse 14, 18 à 20. Lorsque Abraham a fait cette rencontre, il nous est dit que lorsque Melchisédek est venu pour célébrer la victoire et il a apporté du pain et du vin, spontanément, Abraham a trouvé que c'était la bonne chose de lui donner 10% de ce qu'il avait. Et ainsi, il a trouvé une loi, non pas une loi écrite quelque part, mais une loi dans son cœur, dans son esprit. On peut dire qu'il l'a reçue dans l'esprit. Et de la même façon, donc, on voit qu'il a su transmettre ça, parce que Jacob a aussi donné la dîme dans Genèse 28-20. Et ensuite, Moïse a établi cette loi. On peut le lire dans Lévitique 27. Lévitique 27-30, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Et puis ensuite, on voit que ça a été confirmé par les prophètes, le texte de Malachie qu'on vient de parler, de lire ensemble, au chapitre 3, versets 7 à 12. Et puis on peut voir aussi que le Seigneur Jésus, lui, l'a confirmé. Il n'a pas dit « maintenant c'est terminé ». Non, parce qu'il nous a lu, au contraire, dans Matthieu 23, nous avons ce passage où il reproche aux scribes et aux pharisiens, il leur dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. » C'est important ça. Il a dit « sans négliger les autres choses ». Il n'a pas dit « si vous pratiquez la justice, la miséricorde, alors c'est bien, vous n'avez plus besoin de payer la dîme ». Il dit non, vous faites ça, c'est bien, mais vous laissez les choses les plus importantes. Alors à tous, il leur a dit, faites les choses les plus importantes, mais ne négligez pas les petites choses. Et pour lui, c'était une petite chose. Mais c'est dans les petites choses que nous sommes éprouvés. Notre fidélité est éprouvée dans les petites choses. Les personnes qui disent, moi, je vais m'engager pour Dieu, mais... seulement quand il y aura vraiment quelque chose qui sera important, qui va correspondre à mon désir, mon appel, etc. Nous savons déjà que cette personne, elle attendra toute sa vie sans rien faire. Parce que nous sommes éprouvés, nous sommes testés et nous sommes à l'école de Dieu dans toutes les petites choses, constamment. Et Hébreux 7-8, et là nous sommes dans la Nouvelle Alliance, et c'est écrit pour des chrétiens, il nous est dit... celui dont il est attesté qu'il est vivant perçoit la dîme. Pourquoi il n'y a pas tellement d'enseignements sur la dîme dans le Nouveau Testament? Parce qu'il n'y avait pas besoin de reposer le fondement de tout ce qui était déjà. Et les premiers chrétiens étaient tous des juifs, il leur semblait normal de continuer dans ce qu'ils avaient fait. Il n'y avait pas besoin de reposer à nouveau le fondement de choses qui pour eux étaient établies. Et donc nous pouvons comprendre que cette loi de la dîme n'est pas issue de la loi de Moïse, et donc elle est toujours en vigueur, parce que les paroles de Dieu ne changent pas. Alors qui doit la payer? Ben, on peut dire que si Abraham et Jacob devaient la dîme, eux qui n'étaient pas sous la loi, celle-ci n'était pas encore en vigueur, que doit faire le chrétien? Moins ou plus? Comprenez, nous ne sommes pas ici en train de marchander avec Dieu et de calculer en disant « ça serait mieux, Seigneur, si seulement j'avais pas besoin de donner 10%. » Dieu ne demande pas de donner 10% pour nous priver. Il nous demande d'obéir à sa loi pour pouvoir justement nous, lui permettre d'intervenir dans notre vie. Et votre objectif, je l'espère, ce n'est pas de donner le moins possible pour le Seigneur et pour son œuvre, mais de donner le plus possible. Je l'espère du moins. Si nous avons bien compris ce qu'est le sens de la vie chrétienne, moi je suis émerveillé quand je lis l'histoire de certains hommes d'affaires qui ont commencé à donner 10% et à la fin de leur vie, ils gardaient 5% pour eux et ça leur suffisait largement pour vivre et tout le reste, ils le consacraient à l'œuvre de Dieu. Alors nous ne sommes pas dans les 10%. Et eux, ils donnaient 95%. Donc notre objectif, ça ne doit pas être comment je peux faire pour donner le moins possible à Dieu, mais comprendre que plus je lui donne, plus je le laisse agir dans ma vie. Il ne s'agit pas, et la Bible est très claire là-dessus, il ne s'agit pas de soi-même s'exposer à la détresse, de dire je donne mon argent et après je dépends des autres maintenant, en me disant maintenant vous me donnez parce que moi j'ai tout distribué, j'ai plus rien. Il nous est dit, comme je voulais préciser tout à l'heure, que nous devons raisonnablement chercher à nous enrichir et nous devons donc aussi raisonnablement suivre les directives de la parole de Dieu. Or, ces directives ne sont pas compliquées. Alors, que doit faire le chrétien qui est maintenant conduit par l'Esprit de Dieu? Doit-il donner plus ou doit-il donner moins? Je pense que, eh bien, c'est un début. Les 10% sont un début. On sait que c'est un exercice de foi. C'est un exercice de foi régulier pour nous. Des fois, pour certains, c'est difficile. Eh bien, c'est là justement que nous sommes éprouvés. C'est pas quand ça va tout seul et que c'est pas un problème. C'est là que Dieu se montre puissant. Une autre question, quand la payer? Quand la payer? Dans beaucoup d'églises, on utilise le verset 1 Corinthiens 16, au verset 2, où il nous est dit que le premier jour de la semaine, on va mettre de côté. Alors, on peut le lire ensemble peut-être. 1 Corinthiens 16. Alors, il faut bien que nous soyons attentifs aussi dans quel contexte certaines choses ont été écrites. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Ici, il n'est pas question de la dîme, il est question d'une collecte qu'il voulait faire en faveur des pauvres qui étaient à Jérusalem. C'est ça ce qui est en train de se produire. Et donc, cette collecte était faite le premier jour de la semaine parce que c'était le jour où les chrétiens se rassemblaient. Mais il ne nous est pas dit du tout que la dîme doive être faite selon notre prospérité, selon qu'on a beaucoup ou pas. Il nous est dit simplement que la dîme, eh bien, c'est les prémices. C'est la première chose qu'on veut consacrer à Dieu. Il y a la notion de prémice qui est très claire dans Proverbes au chapitre 3, au verset 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Répondez vous-même en vous-même, est-ce que c'est normal de servir tout le monde avant Dieu ou pas? Si nous voulons vraiment honorer Dieu, eh bien c'est les prémices que nous lui donnons. C'est le meilleur. C'est comme ceux qui veulent servir Dieu à la fin de leur vie. Il nous faut servir Dieu avec ce que nous avons de meilleur. Et ce que nous avons de meilleur, c'est ce que nous avons maintenant à notre disposition. C'est quand le salaire vient, c'est ce que nous pouvons dégager maintenant pour le consacrer, cette part que nous avons choisie. Donc à qui revient la dîme? Ça c'est une bonne question. Eh bien, elle sert à honorer Dieu, donc elle lui revient à lui. Un homme ne peut pas se l'approprier. Personne ne peut vous dire « tu dois me donner ta dîme ». même s'il est un serviteur de Dieu. Il ne peut pas, parce que c'est au Seigneur lui-même, ça lui appartient. Le Seigneur n'a besoin de rien. On a dit que c'est au Seigneur, mais d'une certaine façon, on peut dire le Seigneur n'a besoin de rien. Dans Agé 2.8, il nous est dit « L'or et l'argent sont à moi. » Tout lui appartient. Donc, ça confirme encore ce que je suis en train de vous dire, que ce que vous donnez, ce n'est pas parce que Dieu en a besoin, ce n'est pas parce qu'il veut vous en priver, c'est parce que c'est la méthode qu'il a choisie pour pouvoir vous bénir et pouvoir ouvrir justement ces écluses des cieux et vous atteindre. Le psaume 50 nous dit aussi dans le même sens que le Seigneur, lui, n'a besoin de rien, que tout lui appartient. Psaume 50, je lis versets 10 à 12. Tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. On peut penser à certaines images, peut-être qu'on a vu, certains cultes païens avec des sacrifices. On a l'impression que les idoles mangent les animaux. C'est évident que personne ne mange les animaux qui sont sacrifiés. Donc Dieu n'a besoin de rien. Mais les dîmes, telles que Dieu a choisi que ça se passe, sous l'ancienne alliance, les dîmes étaient apportées au tabernacle, puis au temple, et elles étaient remises aux Lévites. Nombre 18-21 nous dit cette chose. Nombre 18-21. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Donc la dîme, elle revient au Seigneur, mais en réalité elle est pour les serviteurs de Dieu. Elle n'est pas pour autre chose. J'ai trouvé une définition qui m'a beaucoup plu, que j'ai trouvé dans un livre de André Snanoudj concernant la dîme. La dîme doit se donner à une œuvre spirituelle qui a un programme actif pour annoncer l'évangile et qui porte des fruits évidents. Le roi de paix en a besoin pour accomplir son programme. Ça veut dire qu'on ne peut pas jeter son argent n'importe où et dire « j'ai donné ma dîme au Seigneur ». Ce n'est pas possible. Il y a des endroits où vous ne pouvez pas dire c'est une œuvre spirituelle. Elle ne proclame même pas la bonne nouvelle. Vous ne pouvez pas, même si c'est très bien de donner aux pauvres, mais vous ne pouvez pas dire « ma dîme, je la calcule et je la donne aux pauvres ». Ce n'est pas destiné aux pauvres. Les pauvres, ils ont une autre façon dont le Seigneur a pourvu pour eux, c'est les aumônes. Mais donc, la dîme, elle est due à tous ceux qui annoncent l'Évangile. C'est donc les gens qui sont dans le ministère, et donc c'est des gens qui peuvent être apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Et d'une certaine façon, si on va plus loin, dans Malachie 3, il nous est dit qu'il faut qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu. Donc dans l'église de Jésus-Christ, l'église locale, là où vous êtes, la dîme lui revient. Elle, ça ne veut pas dire forcément qu'elle lui revient en totalité. La dîme, elle appartient aux serviteurs de Dieu, pour qu'ils puissent faire le ministère et le service. Mais d'un autre côté, on peut réfléchir aussi, et se dire, si je regarde la télévision, et que je suis nourri par un télévangéliste au niveau de ma vie spirituelle, je peux lui envoyer de la dîme, et c'est juste. Mais il n'est pas juste non plus d'envoyer tout à cette personne, et de ne pas soutenir l'église locale où vous vivez, où vous recevez aussi, et où vous participez. Comprenez ? Donc personne ne peut contraindre quelqu'un en disant « tu es obligé de donner », mais d'un autre côté on peut réfléchir, avoir du bon sens et se dire « si je vais manger dans tel restaurant, je ne paye pas chez le restaurant d'à côté ». Donc si je veux qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu, il faut que je participe aussi et que je soutienne l'endroit où Dieu m'a placé. Donc il y a un endroit, une œuvre spirituelle qui mérite que notre dîme soit semée dans cet endroit. Si je n'ai pas donc d'église locale, ça peut arriver pour un temps, je peux donner quelque part où je suis nourri. Mais je ne peux pas couper ma dîme en je ne sais combien de petits morceaux et de tout disperser dans tous les coins. Ça, ce n'est pas possible. Et on le ressent que ce n'est pas juste. Mais vous pouvez soutenir très bien plusieurs serviteurs de Dieu. Mais d'un autre côté, si Dieu vous a placé à un endroit précis, Si c'est votre église locale, ce n'est pas juste non plus que vous ne la souteniez pas au niveau des dîmes, parce que c'est ce que Dieu a choisi. Il a choisi cette méthode pour qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Et la maison de Dieu, cette fois-ci, rappelez-vous, ce n'est pas un bâtiment, mais cette fois-ci, c'est la maison de Dieu, c'est l'église du Dieu vivant. 1 Timothée 3,15 nous dit cela, que la maison de Dieu, ce n'est pas maintenant un bâtiment, c'est l'ensemble des croyants. C'est là que nous pouvons nous attendre à ce qu'il y ait de la nourriture. Il faut qu'il y ait de la bonne nourriture dans la maison de Dieu. Ainsi, les chrétiens seront fortifiés, et bonne nourriture, ça veut dire que ça doit être la possibilité pour les serviteurs de Dieu d'entendre Dieu, de recevoir des messages de la part de Dieu, et ne pas bâcler le travail, pour ainsi dire, et de pouvoir donner des choses qui reçoivent des révélations, et ainsi qu'il y ait une nourriture qui soit vraiment comme le Seigneur le veut. Donc on peut considérer aussi que avec la nourriture, ça ne suffit pas dans la maison de Dieu. D'une certaine façon, et ça se discute, on peut considérer que beaucoup d'autres choses qui vont avec le fonctionnement d'une église locale peuvent aussi être payées par ce que les gens apportent comme dîme. Et je sais qu'il y a des serviteurs de Dieu qui font la différence et disent « la dîme, c'est juste pour les ministres de l'Évangile, et puis le reste, c'est dans le budget fonctionnement de payer par des offrandes. » Bon, ça c'est une façon où chacun peut voir, mais je crois que si nous n'avions aucun endroit pour nous rassembler, s'ils n'étaient pas chauffés, ni éclairés, ni rien du tout, même si les serviteurs de Dieu peuvent apporter la parole, ça ne suffirait pas pour faire fonctionner une église. Mais en tout cas, donc, nous ne pouvons pas choisir de donner ou non la dîme. La dîme se donne avec ou sans joie, parce que des fois on utilise aussi ce passage. Il faut donner avec joie. C'est dans un autre contexte, mais je vous assure que la joie de l'Éternel, elle vient après. Elle vient quand vous avez la satisfaction d'avoir obéi à la parole, d'être fidèle dans les choses que Dieu vous demande, et alors les écluses des cieux sont ouvertes. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseigne-moi.org. www.association-enseigne-moi.org.